Marie Webb, Le précieux fléau, livre 2, chapitre 1, À cheval vers le marché. En racontant cette histoire, je n'ai point tenu compte de l'écoulement du temps. Car lorsque le cœur est en peine, le temps, qu'est-ce donc? Ce n'est rien. Est-ce que le jeune marié qui se languit depuis longtemps pour celle qu'il aime remarque la voix du veilleur de nuit qui épelle la fuite des heures? Et celui-là qui se meurt à l'aube, éprouve-t-il de l'intérêt pour l'heure marquée au cadran par ce soleil qui ne se lèvera plus pour lui? Et quand nous autres, pauvres humains, nous tentons de tenir debout face à la puissance des choses, cherchant à résister pour parvenir à notre paix ou à ce que nous croyons être notre paix, et que, comme sur un ring, nous sommes tout hébétés à force d'avoir été frappés, eh bien, nous n'avons pas conscience du temps. C'est ainsi que 4 années passèrent, et bien que des événements survinrent en ce monde, chez nous, rien n'arriva. Du pays, cependant, nous parvinrent des rumeurs de fort mécontentement, et d'au-delà des mers, celles de bataille. Les Français allèrent en Russie et n'en revinrent pas, à part quelques-uns. Finalement, par un beau soir doré d'été, un cavalier fougueux arriva jusque chez nous, annonçant la grande victoire de Waterloo. Mais la nouvelle qui vint cette même année, et que Gédéon apprécia bien plus, fut celle de la taxe sur le blé. Apporte-moi une chope de notre bière, Prou, s'écria-t-il en rentrant du marché, et en ajoutant, v'là la meilleure nouvelle jamais entendue. Nous serons riches en 2-3 ans. Vous mettez plus de terre en blé. Je me doutais bien que le blé pouvait pas nous trahir, mais j'en espérais pas tant. Quand Calard est venu à mon stand m'annoncer la nouvelle, j'en ai été comme assommé. Incroyable, j'ai dit. Faire payer les étrangers qui transportent leur blé chez nous?
Ouais, c'est à peu près ça, a dit Calard.
Et ça va le rendre rare. Et donc, plus cher, pour sûr.
Je voyais bien venir ça depuis longtemps, mais je pensais pas que ça irait jusqu'au bout.
Et que crois-tu que j'ai fait ensuite, Prou?
Ben, je l'ai amené au pichet de cidre et lui ai payé à boire. C'est dire si ça m'a fichu un coup.
Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de nous mettre à labourer, toi et moi.
C'est ainsi que l'avenir promettait d'être plus rude que les 4 années que nous venions de passer à trimer de l'aube jusqu'au soir, et même pendant la nuit à la lumière vacillante de la lanterne de corne. Cela m'aurait paru moins difficile. Si ce n'avait pas été que pour l'argent, si j'avais pu être un peu satisfaite de mon intérieur, et si Gédéon avait mis sa fierté dans la bonne marche de la ferme. Mais ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait que de racler, grappiller, pour tirer le plus d'argent possible de l'endroit et puis s'en aller. Durant ce temps, je me mis à grandir longue et maigre comme une gaule, et mère commença à se tordre les mains pour cela aussi. Étant elle-même petite, tout comme Madame Biggindy, Jancis et la plupart des femmes des environs, il lui semblait qu'une femme devait être petite. Or, comme je ne cessais pas de pousser tout en devenant de plus en plus maigre, en vérité avec une telle charge de travail et peu de temps pour manger, n'importe qui ne serait devenu. Elle me dit que je devenais comme un peuplier dans une forêt de taillis, ou comme un roseau de l'étang plus haut que les autres. Ainsi je devins aussi honteuse de ma taille que de mon autre problème. Jusqu'à ce que... Mais n'anticipons pas sur la suite de ce récit. Gédéon portait sa blouse dans laquelle il était fort séduisant. Il avait alors 22 ans, et c'était un homme bien bâti, large d'épaule avec une belle silhouette vigoureuse. À mesure que son corps s'affermissait, s'affermissait aussi son esprit, qui devint plus dur que la glace de 10 jours. Il n'avait pas un regard pour les filles sur le marché, bien que beaucoup d'entre elles l'admiraient. Or, il advint une fois, au marché, alors qu'il portait la veste bleue aux boutons de cuivre de père, que la fille du châtelain de Camperdine, pas celui de la bouteille, mais son arrière-petit-fils, passa à cheval près de son étal et lui sourit. Mais lui ne fit qu'en rire, tout en se caressant le menton et en me lançant un regard gêné quand je l'ai questionné là-dessus. À n'en pas douter, il était beau garçon, et je trouvais bien injuste que ce fût moi et non Gédéon qui naquit après que le lièvre regarde amer, parce que Gédéon aurait pu se faire pousser la moustache et paraître très bien, sans que personne sache qu'il avait un bec de lièvre, tandis que pour moi, il était difficile de le cacher. Quant à la ferme, elle prospérait plutôt bien. Nous avions un grand troupeau de moutons, si bien que la tonte nous prenait plus d'une semaine. Nous possédions aussi quelques cochons qui gardaient mère bien occupée tout le temps que durait la saison des glands, tandis qu'elle les surveillait dans la chênaie. La prairie près du verger était en blé, mais nous n'en tirâmes rien la première année, le temps ayant été si humide que le blé leva et germa dans les pis. Nos économies nous permirent d'acheter pour les labours et les autres travaux pénibles de la ferme deux bœufs, qui ne furent pas très chers, étant un peu passés de mode. Gédéon avait dit que quand il irait les acheter, je pourrais l'accompagner pour l'aider à les ramener, et je pourrais regarder les vitrines, pendant qu'ils discuteraient leur prix. Puis nous pourrions voir la maison qu'il avait projeté d'acheter quand elle serait en vente. Mais mère ne devait rien savoir à propos de la maison, parce qu'elle ne pourrait tenir sa langue. « Et si on savait que j'ai cette idée en tête, » disait Gédéon, « les gens marchanderaient tous mes prix et doubleraient tous les leurs. Et alors, comment s'en sortir après ça ?» Il est facile d'imaginer ma joie à la perspective de pouvoir flâner. Alors que je n'avais quitté Sarnes que très rarement depuis la mort de père et que Lou Lingford m'était toujours apparu comme un lieu magnifique. J'étais en train de glaner dans le champ de blé quand Gédéon vint me faire cette proposition. Il en revenait du marché et traversa ce champ aux dernières lueurs du soir, laissant son ombre et celle de Bendigo s'étendre depuis la lointaine barrière jusqu'au verger, tandis que je les regardais arriver. « Mais comment que je pourrais y aller? Je ne peux pas monter derrière, vu qu'il y a les paniers, » ai-je dit. « Si tu glanes un peu plus, je louerai le poney du moulin quand je porterai à moudre le prochain blé. Tu vas à plage demain pour ta leçon. »« Oui. Bah, ramène les bêtes et je porterai le blé samedi. »« Mais j'ai déjà tout glané. Reste pratiquement rien dans ce champ comme dans l'autre, » ai-je dit. « Demande à Begindi de glaner le sien. Je les ai vus transporter leur récolte. » « Mais Chancy, c'est Madame Begindi. »«
Tu sais très bien que Chancy, c'est un poil dans la main. »«
Et qu'elle fera pas grand-chose. »« Même si je l'aime bien, que... » Rapport à son apparence... Il s'arrêta, et la main posée sur l'encolure de Bendigo, l'air rêveur, il posa son regard au loin. La haute plage brillait comme du miel sous les rayons obliques du soir. Il était déjà assez rare de voir Gédéon sans mouvement, mais le voir penser à autre chose qu'à la façon de faire de l'argent n'était bien plus encore. Il est vrai que le nom de Jancis allait souvent l'apaiser, et chaque fois qu'il tomberait dans ses silences, il me rappellerait cet homme en transe que l'on amena un jour à Begindi pour qu'il le réveillât. Il me faisait aussi penser à un saule pleureur ruminant ses songes au-dessus de l'eau par un jour d'été sans vent, ou à ses tifs, rêvant tout au long de l'année, près du portillon surmonté de l'auvent, car Gédéon gardait ses pensées aussi cachées que nifs ses baies rouges sous ses branches. C'était depuis qu'il avait vu Jancis sous la lumière rose que Gédéon avait pris l'habitude de sombrer dans ce genre de rêverie. Il lui arrivait de temps à autre de murmurer « Non, non, puis de secouer ses épaules comme d'un fardeau, et de revenir à lui-même plus déterminé que jamais. Car Gédéon avait plus que quiconque l'âme d'un chef, et ce qu'il dirigeait, c'était sa chair et son sang. Or, j'aimais beaucoup Gédéon, et je trouvais dommage qu'un homme comme lui dût se dominer et n'avoir aucun bon moment. Je savais bien où il allait le samedi quand il quittait sa blouse pour l'habit bleu. Il n'allait plus régulièrement à Plache, qu'il n'avait jamais été à l'église. Tout avait commencé par la lumière rose, mais même sans elle, cela se serait tout de même produit. Madame Megiddy m'avait raconté comme il venait frapper à la porte et comme Chancy s'accourait dans sa plus belle robe, un ruban ou une fleur dans les cheveux, et comme elle rougissait et pâlissait tour à tour. J'avais d'ailleurs remarqué, quand elle venait chez nous, que sa poitrine palpitait sous son fichu, ce qui m'étonnait, car pour moi il ne s'agissait que de Gédéon, mais pour Chancy, il était comme le feu ou la tempête, le printemps même, et sa voix incarnait pour elle celle de Dieu Tout-Puissant. Gédéon entrait sans un mot, disait Madame Megiddy, et allait s'asseoir tandis que Megiddy le regardait d'un air renfrogné, n'ayant pas la moindre intention de marier Chancy. Ce dernier lui décochait ses regards depuis le coin de la cheminée où il s'installait, parce qu'il ressentait fort le froid, lui qui vivait dans un endroit humide sans bouger beaucoup. Et Gédéon lui renvoyait le même genre de regard. Chancy rougissait et tremblait au-dessus de son rouet, tout en filant et jetant furtivement les yeux sur Gédéon, comme un pauvre roi tenait. Madame Megiddy avait un visage de marbre. Elle faisait des plans pour sortir son homme de la cuisine. Elle était très heureuse de voir que l'on courtisait sa fille, n'ayant que peu de choses sur lesquelles réfléchir ou parler, et elle voulait aussi devenir grand-mère. Donc elle faisait tout pour sortir Megiddy de sa pièce. Or, une fois, alors que Gédéon était plus sensible que jamais à la beauté de Chancy, qu'il aurait bien voulu embrasser, paraît qu'elle était d'un nouveau ruban ou de quelque autre fanfreluche, voilà que Madame Megiddy se mit à appeler son mari, à revenir discuter, à repartir encore pour l'appeler de nouveau, et lui ne bougeait pas. Toujours assis dans le coin sombre près de l'âtre à la manière d'un hutin. Eh bien, elle alla jusqu'à mettre le feu au chaume de la grange. Oui, elle le fit. C'était une femme de caractère. C'est ainsi qu'elle maintint le pauvre homme occupé à courir avec ses seaux jusqu'au soir, lui qui avait horreur de travailler de ses mains. Quand il avait pratiquement éteint le feu à un endroit, elle en allumait un autre ailleurs, au moment où il allait chercher de l'eau à l'étang. Le briquet silex restait chaud, ma chérie, me dit-elle en éclatant de rire. Je n'ai jamais vu une femme rire d'aussi bon cœur, pour quoi que ce soit, qu'elle pour ce tour qu'elle avait joué. Et, me dit-elle, c'est en jetant un coup d'œil par la fenêtre qu'elle se donnait du courage. À travers les plus clairs des fonds de bouteille qui composaient des carreaux, elle pouvait voir les amoureux assis l'un à côté de l'autre sur le banc. Tout à fait convenable, se disait-elle, et elle retournait à sa tâche. Une autre fois, elle libéra la truie qui courut droit à notre chenet, puisque c'est de là que Madame Megiddy l'avait reçue. Megiddy aimait son lard, et la truie représentait beaucoup de petits cochons et de lard en perspective. Aussi, craignant qu'elle ne se fît quelque mal, il se lança à sa recherche avec un bâton tout en jurant considérablement. Au bout d'un moment, il fut un peu intrigué, parce que les ennuis lui arrivaient chaque fois le dimanche. Et tout païen qu'il était, il tenait à son jour de repos. Aussi dit-il à Gédéon, « Tu portes la poisse. Chaque fois que tu viens, des embarras sont à prévoir. Aussi ne reviens plus. » C'est ainsi que Gédéon dut cesser ses visites. Alors il se mit à rencontrer Chancy dans les bois. Et il m'arrivait de les voir sur quelques sentiers obscurs, qu'il pleuve ou qu'il gèle, elle avec son visage comme une rose blanche et lui, la regardant l'air amoureux tout en étant furieux de l'être. Quand ils étaient dans les bois,
Madame Béguidé était si intéressée par les bouteilles contenant les fantômes du sorcier qu'il avait bien du mal à répondre à toutes ses questions. Mais elle lui préparait un thé tellement copieux qu'il en avait presque jusqu'au souper. Cependant, il découvrait tout. Il commença à se demander pourquoi Jancy se prenait d'une telle affection pour Tivi. Cette Tivi qu'elle disait aller voir. Et comme il ne pouvait en parler au sacristain avec qui il était à couteau tiré, un soir, il la suivit en cachette. À son retour à la maison, il la frappa tant avec sa ceinture qu'elle en eut les yeux rougis des semaines durant. Et elle courut vers Gédéon tout en larmes. Il fut en colère contre Béguidi. Et dit à Jancis qu'il déposerait bien, mais pas avant qu'il n'ait gagné beaucoup d'argent et soit devenu riche. Car comment pouvait-il s'en sortir, disait-il, avec une femme peu à même de l'aider comme elle, et donc à sa charge, et avec probablement toute une tribu d'enfants. Cependant, il était d'humeur triste et facilement irritable, parce qu'il ne pouvait voir Jancis que très rarement, mais Guildy la surveillant de près. J'en vins à me dire que si Gédéon voulait me montrer la maison qu'il avait choisie, c'était peut-être pour se conforter lui-même et affermir sa volonté, afin de ne pas laisser tomber son projet. Il était bien tenté de le faire tant il était fou de Jancis. Mais s'étant engagé, il se disait qu'il ne pouvait abandonner, quand bien même, l'attente devait durer toujours. Il advint que nous ne pûmes louer le poney du moulin pendant bien quelques semaines, parce qu'il boitait. Aussi, la moisson était faite depuis longtemps, l'hiver était déjà là, et les fêtes de fin d'année approchaient, quand nous reçûmes du moulin le message que nous pouvions louer le poney pour le marché de Noël, eux-mêmes venant d'acquérir l'un des vieux chevaux de la diligence Lullingford-Silverton, avec lequel ils iraient aussi à ce marché. Je peux dire que je me réjouissais d'avance de cette sortie, et c'est avec un peu d'anxiété que je scrutais le temps, qui semblait tourner à la neige. Le jour du marché, je me levais à 4 heures, pour pouvoir préparer la maison pour mère et rassembler les victuailles pour le marché. Des œufs, des volailles que nous avions en abondance, des légumes, des pommes et un peu de beurre. Pendant que j'étais en train de faire briller les pommes dans le grenier, la paix m'enveloppa, comme elle avait l'habitude de le faire en cet endroit, depuis le temps dont j'ai parlé. La chandelle de jonc tremblotait dans l'air froid, et des souris trottinaient tandis que je me tenais devant la fenêtre ouverte, qui ressemblait à un rectangle de papier noir. Aucun bruit n'entrait, rien ne bougeait au dehors, la mare, même, était gelée sur ses bords, ce qui obligeait chaque matin les canards à patiner avant d'atteindre l'eau. Le calme des choses était si profond qu'il en devenait presque audible. Quand le monde était si tranquille, j'avais coutume de me sentir comme tout près de quelqu'un qui me connaissait vraiment bien. Oui, c'était comme se trouver auprès d'un être cher. En bas, de la grange sombre, le coq émit un chant léger et doux. Et je me fis la réflexion que cela ne semblait pas venir d'un oiseau de notre terre. Il est vrai que je l'entendais du grenier, d'où les choses se perçoivent différemment. Vous devez vous dire qu'il est bien singulier qu'une femme telle que moi, toujours à travailler de ses mains à de pauvres et rudes tâches, puisse avoir ce genre de considération, que l'on attendrait plutôt de délicates demoiselles assise devant un ouvrage de tapisserie. En fait, j'étais très seule, et j'avais bien du temps pour réfléchir. Et puis avec l'étude de mes livres, des idées venaient dans mon cerveau, comme pousse dans un endroit marécageux où il n'y a rien d'autre, le jonc fleurit et le délicat myosotis. Et je n'ai jamais vu en quoi cela pouvait nuire, puisque toutes ces réflexions ne me venaient qu'au grenier et ne m'incitaient jamais à rêvasser en plein travail. Donc, au moment où j'entendis le son clair jaillir de notre coq qui réveillait l'aurore, je sus que 2 heures venaient de passer, et je descendis l'escalier en courant pour préparer le petit déjeuner. Quand Gédéon entra, tout était prêt et le grand feu ronronnait,
car nous avions beaucoup de bois à Sarnes. Nous pouvions nous en féliciter, puisqu'à cette période, il y avait beaucoup de familles pauvres en Angleterre qui s'agglutinaient à 6 ou 7 dans une même chaumière pour chauffer leur bouilloire sur un même feu. J'ai toujours été reconnaissante pour cette abondance de bois qui ne coûtait rien et ne prenait pas non plus trop de temps à Gédéon, parce que si j'en brûlais plus qu'il n'en avait coupé, je pouvais en fendre moi-même. Nous étions aussi bien que possible, assis dans la joyeuse lumière du feu, dont la lueur rouge brillait sur les dalles, les faïences et les rouets posés dans un coin. J'étais heureuse de penser que Mère ne resterait pas seule, puisque j'avais demandé à Tivi de venir lui tenir compagnie. En effet, je n'aurais rien pu apprécier en sachant que quelqu'un que j'aimais se retrouvait seul et triste. Alors que je secouais la nappe dehors, comme le jour venait de poindre, je vis un manteau rouge avancer sous la pénombre des bois. C'était Tivi. Elle n'avait aucune raison d'arriver en retard, n'ayant jamais rien à penser ou à faire, et possédant tout son temps. Dans la nuit, Gédéon avait préparé Bendigo et le poney du moulin. Tout était prêt. Dès que le soleil se leva, nous partîmes. On voyait des lumières rouges plein le lac, comme si notre ferme qui se reflétait dans l'eau était en feu. Les pins noirs étaient ruisselants de givre blanc, et le bout de leurs branches affaissées ressemblait à des doigts trempés d'écume. Les corbeaux étaient très contents. Ils croassaient de façon douce et agréable, comme s'ils attendaient déjà le dégel de notre terre labourée, prêts à se rassasier bientôt. Et dans l'arrière-cour, s'élevait un grand pépiment des tourneaux. « Apporte-moi quelque chose de la foire !» cria Tivi de l'autre bord de l'étang. Gédéon parut contrarié, mais je savais que la seule chose qu'il comptait rapporter de la foire serait pour Jancis. Aussi répondis-je. « Je le ferai, mais que veux-tu ?
Un bout de ruban couleur cerise pour attacher mes cheveux, » répondit-elle.
Car tout en étant gourde sur bien des points, elle avait tout à fait conscience d'avoir de jolies boucles épaisses d'un châtain brillant. Elle leur donnait un petit mouvement chaque fois qu'elle était avec Gédéon, et ne manquait aucune occasion de dire du mal de Begildy, tout en évitant d'attaquer de quelque façon Jancis, de crainte que Gédéon explose de colère. En cela, elle était assez futée, comme même une jeune fille stupide peut l'être quand elle est amoureuse. Et elle parvenait à donner l'impression qu'aimer la fille d'un sorcier ne pouvait se comparer à aimer la fille du sacristain, lequel avait autant de facilité que le sorcier pour débiter ses charmes, mais lui, c'était pour citer des textes bibliques. Le matin était superbe. La route crissait sous nos pas. Et quelques oiseaux des marais, surtout des canards siffleurs, volaient alentour. Nous trottions vers les collines. Au travers des bois lointains, des rudes marais qui les jouxtaient, de quelques champs labourés ici et là, et des chaumes couverts de givre, d'où s'échappaient quelques perdrix au bruit de notre attelage, nous pouvions apercevoir ces collines aussi bleues que le bleu des pensées. Ô colline promise, c'est ainsi que vous m'apparaissiez. Il y eut un caquetage dans un bosquet, puis une troupe de palombes, qui déployèrent au soleil leurs ailes d'un bleu étincelant, prit son envol précisément vers ces collines. C'était comme si là-bas se trouvait quelque merveille, un puits dont l'eau guérissait, ou un autre phénomène miraculeux, ou bien encore, une de ces personnes saintes, telles qu'il s'en trouvait dans les temps anciens. Je dis tout cela à Gédéon, mais il avait le regard perdu au loin, par-dessus son épaule, dans la direction de Plage et de la longue spirale de fumée bleue qui sortait de la maison de pierre. Il se prit à siffloter tout bas. En fait, il ne sifflait jamais franchement. Même dans ses moments les plus heureux, mais toujours très doucement et pour lui-même. Aussi, je ne dis rien de plus et quelques instants plus tard, notre route qui nous venait du fond des âges prit fin et nous atteignîmes la route principale sur laquelle on avançait fort mal. C'est vrai que, quel que fût le temps, la route faite par les Romains était agréable et bien meilleure que la route à péage. D'abord, nous dépassâmes des gens du moulin qui marchaient tranquillement, puis quelques autres, et assez rapidement, nous fûmes à grimper la colline vers la ville, accompagnés des plus vieux qui poussaient leurs cris à la façon qu'ils avaient l'hiver. C'est ainsi que nous chevauchâmes jusqu'à Lullingford pour entrevoir un rêve. Car la maison que nous étions sur le point de contempler était toute tissée des rêves de vie de Gédéon. Je parle de la maison et de tout ce qui allait avec. Les servantes, les hommes à tout faire, les bals et les dîners avec les notables au pichet de cidre en période électorale. Au moment où nous passions le gué qui se trouve au bas de la ville, Gédéon s'exclama « Je voudrais bien que Chanty soit sur mon cheval. Et pourquoi pas, dis-je, la prochaine fois que nous viendrons, et même toutes les fois. »
Il y a Begildy.
Oh, Begildy, je l'emberlificoterai avec ses propres dires et le charmerai avec ses propres charmes, dis-je en riant, alors que nous grimpions la rue étroite, tandis qu'ici et là sortaient des têtes par les fenêtres pour voir ceux qui passaient.
Chut maintenant, dit Gédéon.
Ris moins fort, pas comme un courlis sauvage.
Mais le courlis est de bonne compagnie.
Je n'ai guère entendu de voix plus agréable que la sienne.
Merci du compliment, gars.
Mais vraiment, j'étais satisfaite du monde et de tout, parce qu'il y avait à Lullingford quelque chose d'exceptionnel. Comme si un air différent y soufflait, comme si le soleil y était plus brillant et la lumière du jour plus apaisante. Je ne savais pourquoi il en était ainsi. L'endroit était tranquille, quoique loin d'être aussi tranquille que maintenant. De nos jours, les gens vont vers les grandes villes. Mais quand j'étais jeune, ils venaient de plusieurs lieux à la ronde s'assembler dans les petits marchés des bourgs. Ainsi, Lullingford était tranquille et très paisible, mais sans la torpeur presque mortelle parfois de Sarne. Il y avait une seule rue principale, pourvue de maisons noires et blanches, qui débordaient quelque peu par leurs pignons, dont le bas comportait des boutiques aux vitrines arrondies. À l'arrière de ces maisons se trouvaient de petits jardins. Tout en haut de la rue, on voyait l'église, longue et basse, avec une immense flèche joliment sculptée, que l'on avait plaisir à regarder. À l'ombre de l'église se nichait la grande auberge accueillante dont l'enseigne portait un pichet de cidre bleu sur fond rouge. Elle avait aux fenêtres des rideaux rouges, la lueur d'un feu y brillait en hiver, et elle semblait dire, ainsi placée tout près de l'église, que la conscience du propriétaire était sans tache, sa bière non trafiquée, et que personne ne pouvait y boire plus que de raison. Mais j'avais un petit doute sur ce dernier point. Le dimanche, une étoffe blanche pendait aux vitrines des boutiques, comme un tablier, ce qui leur donnait un air très pieux et respectable. Il y avait peu de magasins, et un seul de sa spécialité, si bien que vous ne pouviez pas courir de l'un à l'autre pour y dégoter le produit le moins cher. Il y avait le coffret vert, où l'on trouvait de l'épicerie, de la mercerie et de la quincaillerie. On avait aussi une malterie, une boucherie et une boulangerie, du fait que Lullingford était progressivement devenu cossu. En effet, peu de villes pouvaient se vanter d'avoir un boulanger en ces temps, où presque tout le monde faisait son propre pain à la maison. Puis venait le brelier, qui faisait des bottes et des harnais, et le tailleur, qui n'ouvrait que l'hiver, parce que l'été, il était en tournée dans le pays proposant son travail. Il y avait aussi le forgeron, chez qui s'attroupaient les garçons après l'école, chaque fin d'après-midi d'hiver, demandant à se chauffer les mains et à faire crier des châtaignes et des pommes de terre. C'était chose plaisante que de voir des étincelles s'envoler en crépitant, et de sentir, sans rien avoir à payer ou à faire, la joyeuse flamme vous réchauffer jusqu'au profond de l'âme, comme l'amour. Près du forgeron, il y avait une rangée de petits cottages, dans l'un d'eux vivait le tisserand. Comme le tailleur, il parcourait la contrée en été, et parfois, même l'hiver, il allait jusqu'à un village, si le temps le permettait. Mais par mauvais temps, il restait dans sa douillette petite maison, écoutant le vent rugir des montagnes du nord vers celles du sud. Je n'ai jamais su dire pourquoi cette maisonnette m'attirait, et cela déjà depuis l'enfance. On y voyait un jardin étroit, une allée de briques rouges, une palissade en chêne et des pieds de lavande de chaque côté de l'allée. Trois marches blanchies conduisaient à la porte. Et la fenêtre n'était pas faite de fond de bouteille, mais de véritables petits carreaux. Au-dessus se trouvait une autre fenêtre. À l'arrière, un bout de jardin descendait vers les prairies. Et il y avait une deuxième fenêtre dans la pièce à vivre qui donnait sur les montagnes, par-delà le jardin et les prairies. Cela, je le savais, parce que j'y étais venue une fois apporter un message, du temps du vieux tisserand. Une vigne courait sur le devant de la maison. Elle était très ancienne et tarabiscotée. La chose était rare dans un endroit où les hivers étaient tellement rudes. Mais le bourg était abrité par les montagnes et la maison du tisserand était exposée plein sud. Aussi cette vigne pouvait croître et, même s'il est vrai que ses grappes ne parvenaient pas toujours à maturité, quand la saison avait été trop froide, il arrivait certaines années qu'elle mûrissait vraiment bien. Alors, que ce fût la vigne ou la lavande, ou les ombres charmantes sur la verdure de la pelouse, que ce fût le lilas près de la porte, ou le métier à tisser dans la pièce à vivre, qui était si bien tenue et si douillette avec son feu, dont les flammes étincelaient sur la vaisselle de cuivre. Que ce fût tout cela à la fois, toujours est-il que je ne pouvais passer près de cette maisonnette sans désirer qu'elle fût mienne. J'enviais jusqu'aux belles grives qui sautillaient sur sa pelouse. Cette maisonnette m'attirait, comme le paradis attire le pauvre pêcheur fatigué de ses errements. Aussi ce jour-là, comme nous chevauchions tout près, je dis « Gédéon, qu'est-ce qui fait que cette maison est différente des autres ?»
Elle n'est pas différente.
Oh, mais sa différence est telle qu'on la croirait construite avec une pierre et un chaume venus d'un autre monde, me suis-je écrié. Elle est aussi différente que si sa charpente avait été prise des forêts de la terre promise.
Ma foi, ma fille, tu délires, me dit-il. Tais-toi, ou le garde va t'enfermer.
Alors je me tus, et nous atteignîmes le pichet de cidre. Et après avoir placé nos chevaux dans l'aire de repos, nous prîmes nos marchandises pour le marché.